débat du jour.
Romain Ouzoui.
Croyez-moi, ce sera comme le Brexit puissance 3. Ces mots sont ceux du nouveau président américain Donald Trump. Et effectivement, près de 5 mois après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, eh bien la victoire du candidat républicain aux États-Unis est un nouveau bouleversement mondial. Défiant tous les sondages, le populisme ne cesse de progresser au nom notamment de la lutte contre l'establishment politique. Désormais, les regards se tournent vers la France, où Marine Le Pen va tenter de marcher dans le sillage de Donald Trump à l'occasion de la prochaine présidentielle. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère politique mondiale? C'est la question que nous posons ce soir. Et pour y répondre, nos deux invités en studio, Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et journaliste pour Le Figaro en charge du Figaro Vox. Vous êtes l'auteur des Nouveaux Enfants du Siècle. Face à vous, Stéphane Vaniche, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur associé de communication politique à l'université Paris-Est-Créteil et co-auteur de l'ouvrage intitulé Marine Le Pen, prise au mot. On va évoquer avec vous la situation du Front National notamment. Je vais commencer justement avec vous, Stéphane Vaniche, mais sur une question globale qui va nous permettre de poser le débat. Est-ce que le populisme, aujourd'hui, est dans le monde plus fort que jamais ?
Plus fort que jamais, je ne sais pas, mais en tout cas, il est plus fort qu'hier, ça c'est évident, tout simplement parce que la mondialisation et la modernité laissent beaucoup de personnes sur le chemin. On n'accompagne pas assez les gens, on n'explique pas assez, et ça va être un des enjeux, à mon avis, des politiques de demain. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui sont un peu perdus, même beaucoup perdus parfois. Et du coup, la parole populiste, qui est une parole binaire, une parole simpliste, permet de retrouver des repères, et du coup il y a une certaine adhésion en effet en ce moment en Europe et aux États-Unis.
Alexandre Devecchio, la mondialisation, premier facteur pour expliquer la montée du populisme?
Oui, j'y reviendrai, mais je veux peut-être d'abord rebondir sur le terme populiste tout simplement, parce que je crois qu'il est très mal choisi. Enfin, c'est un terme un peu attrape-tout qui permet pas de définir ce que sont les gens. C'est un terme un peu facile pour disqualifier l'adversaire, et en plus je vois pas très bien en quoi elle le disqualifie, puisque dans populisme,
c'est un terme historique finalement qui a évolué, c'est ça aujourd'hui?
Il y a peuple, donc ça dénote, je trouve, un mépris d'une partie des élites pour le peuple, qui ne serait pas capable de comprendre et de faire son choix lui-même. Après, sur la mondialisation, je suis assez d'accord, mais je pense effectivement que c'est une nouvelle ère. Le peuple est en demande de protection. Il a compris que ce monde nouveau, finalement, du tout marché, était un monde qu'il ne lui convenait pas, qu'il faisait souffrir. Et donc il est en révolte contre ce monde-là, et c'est peut-être un monde nouveau qui est en train de se dessiner depuis le Brexit et aujourd'hui avec ce deuxième coup de tonnerre qui est le coup de tonnerre Donald Trump.
L'accumulation des victoires, finalement, vous êtes d'accord, fait qu'on ne peut plus dire populiste, hein?
Si, mais le populisme, ça se définit très bien. Au contraire, c'est pas un problème de péjoratif. Le populisme, c'est d'abord une parole directe entre l'élu et le peuple. C'est ensuite un système charismatique. S'il n'y a pas de charisme, si on passe pas bien dans les médias, ça peut pas fonctionner. Et il y a aussi une idée d'unifier une société qui est fragmentée. Et donc, à travers la parole du politique, simplifiant les problèmes, montrant des enjeux en général binaires, et là, Trump est un très très bel exemple, on essaye d'unifier la société. Le problème, c'est que cette unification de la société exclut une partie, les immigrés par exemple, les clandestins, etc., exclut une partie du peuple, justement, et c'est là où il y a problème. Mais le populisme, c'est quand même une pratique populiste depuis l'Antiquité. Ça vient de populus, il y a manipulus aussi, qui vient aussi manipuler, vient aussi de populisme, du populisme, etc. Donc c'est une très vieille tradition, entre guillemets. Je n'irai pas sur le côté péjoratif, je dirais c'est le problème simplificateur qui fait qu'une fois qu'on arrive au pouvoir, on est en complète contradiction avec la réalité sociale. Et c'est ça qui va arriver à Trump. D'ailleurs, Trump aujourd'hui est en train de se calmer extraordinairement.
Trump ne devait pas gagner l'élection,
Alexandre,
il ne devait pas gagner les primaires. Donc je me méfie des pronostics des experts, on verra bien ce qui va arriver à Trump. Et s'il mettra en œuvre ou pas sa politique.
Vous pensez qu'il peut tenir son programme qui est déjà très brouillon, tel qu'il a été annoncé?
Je ne sais pas s'il est très brouillon, son programme. Essayons de définir ce qu'est le Trumpisme plutôt
c'est
que.
C'est exagéré de dire que c'est déjà une école.
Ce qu'est le populisme. Je crois que finalement, Trump a très bien compris la demande de protection du peuple américain. Et finalement, le Trumpisme, c'est, je dirais, un protectionnisme intégral, un protectionnisme sur le plan économique. C'est-à-dire que Les gens sont en quête de frontières, de repères, de limites, notamment pour ce qui est des questions de sécurité, des questions migratoires, mais c'est aussi un pro-protectionniste sur le plan économique, puisque Donald Trump avait un programme assez iconoclaste par rapport au programme traditionnel des républicains, et donc un protectionnisme économique qui permet de redévelopper une industrie locale face aux délocalisations. Mais, et il a répondu à une angoisse existentielle du peuple américain et qui se retrouve également en Europe, ce qui explique aussi que des phénomènes similaires arrivent, notamment en France, avec la montée du Front National.
Stéphane Vanisch, c'est tout ça le trumpisme, ou est-ce que c'est d'abord une image incarnée par une personnalité? Est-ce qu'il y a vraiment ce programme derrière vous?
Je pense que d'abord le trumpisme, c'est d'abord une image de la télé-réalité d'un côté et des médias sociaux de l'autre.
C'est un bon homme d'affaires, donc ce sera un bon président. C'est ce que
pour les Américains, c'est culturellement tout à fait. Pour les Américains, culturellement, nous, ça se fait en France, on n'a pas cette idée-là, mais pour les États-Unis, en effet, l'idée de réussite individuelle et personnelle permet à profiter à tout le monde et fait qu'on peut devenir un homme politique du jour au lendemain grâce à ça.
Comment on peut expliquer ce mécanisme ?
Le mécanisme, tout simplement, celui de la méritocratie. Le problème, il est simple, c'est que aux États-Unis, on est dans un individualisme méritocratique. Donc, vous avez un Donald Trump qui a réussi. À la limite, il a eu son premier million, il est devenu milliardaire, le premier million de son père, etc. Un peu mythique. Et du coup, il devient légitime et donc écoutable, tout simplement parce qu'il a réussi professionnellement, y compris dans des sphères quand même dans l'immobilier. Donc c'est aussi dans la vie de la cité quand même. Trump a beaucoup intégré là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que le trumpisme, c'est pas du lepénisme. Le trumpisme, c'est pas l'extrême droite, parce que le trumpiste, c'est tout simplement le candidat républicain. Et moi, je dirais, je suis pas d'accord. Si on doit comparer Trump à quelqu'un en France, c'est plutôt à Nicolas Sarkozy. Il va être, parce que Trump, il est le produit, qu'il le veuille ou non, il est le produit du Parti républicain, Parti démocratique et Parti de gouvernement dans toute sa splendeur. Et donc, on est dans une représentation, je dirais, médiatique de rupture. Mais il va gouverner qui ? Avec qui ? Avec Giuliani. Il va gouverner avec sa majorité au Sénat et au Congrès. Il est légitime parce qu'il est porteur, il est légitimé par le Parti de gouvernement, les républicains.
Vous citiez Nicolas Sarkozy. Pardon. Avant de vous passer la parole, Alexandre Devecchio, je voudrais citer cette phrase, effectivement, de Nicolas Sarkozy, qui va dans votre sens, Stéphane Vanisch. Regardez ce que donnent aux États-Unis les candidats soutenus par l'establishment et les médias. Ils sont balayés par les candidats du peuple. Vous verrez en novembre ce que cela donnera en France. Fin de citation, allusion bien sûr à la primaire de la droite. Nicolas Sarkozy veut marcher dans le sillage de Donald Trump.
Oui, Nicolas Sarkozy est totalement plastique. Donc, il y a quelques jours, il disait le plus grand mal de Donald Trump. Là, il dit le contraire. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite, parce que malgré tout, Donald Trump a pris le Parti républicain par effraction. L'establishment a essayé de s'en débarrasser jusqu'au bout. Il a même été démocrate à un moment. Donc, on voit bien que
les cadres du parti ont refusé de venir exploser
les cadres traditionnels. Et d'ailleurs,
il n'a jamais été d'extrême droite.
On ne sait pas quel va être son gouvernement. Et il est probable qu'il y ait des personnalités de la société civile, même Giuliani, qui a été maire de New York, est quand même assez marginal au sein du Parti républicain. Donc je pense que c'est complexe. Oui, il a jamais été d'extrême droite. Je compare pas, c'est des histoires différentes, effectivement, le Front National et Donald Trump. Mais le succès participe d'une même rupture, finalement, entre les élites médiatiques, politiques, traditionnelles, et le peuple. Moi, ce que j'explique dans les nouveaux Enfants du siècle, qui est un livre consacré à la jeunesse, mais les questions se recoupent, c'est que la génération qui est née après la chute du mur de Berlin en 1989, c'était la génération qui devait connaître la fin de l'histoire. Fukuyama pronostiquait que finalement on aurait une mondialisation heureuse, et c'est la génération de l'identité malheureuse. Je pense que c'est aussi un phénomène beaucoup plus large. Le peuple, ou la majorité du peuple, se rend compte que finalement cette globalisation merveilleuse qui lui était promise a été synonyme de crise économique, de crise identitaire, et peut-être demain de crise écologique, même si pour le coup le programme de Donald Trump en matière d'environnement n'est pas protectionniste.
Et pourquoi les discours justement tels que celui de Donald Trump ne font plus peur aujourd'hui? C'était pas le cas avant, il y avait une stigmatisation des extrêmes, Stéphane Vanisch.
C'est le déséquilibre des sociétés modernes. C'est globalement des discours comme Donald Trump ou des discours populistes ou d'extrême droite en Europe, parce que faut aussi en parler.
Bien sûr, Autriche, Allemagne, il y a une montée importante.
Voilà, Pologne,
Hongrie.
Enfin bref, on a quand même beaucoup d'endroits. ces discours deviennent audibles et légitimes tout simplement parce que nous sommes dans des sociétés extrêmement déséquilibrées entre une partie de la population qui est éduquée, vivant en centre-ville, dans les grandes villes, etc., qui se sortent bien avec la mondialisation, en fait. Et ça se voit très bien dans l'électorat de Trump. Il perd en Californie, il perd à New York, mais il gagne dans tout le Middle-West, hein, globalement. Et après, c'est ce qu'on appelle les oubliés en France, c'est-à-dire les gens des petites villes, des 2000, 3000, 10 000, 20 000 habitants, petites villes-centres, où la désindustrialisation fait qu'il n'y a pas un avenir collectif extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, on a l'impression que les politiques n'ont pas pris en charge ces personnes font juste en France 57% de la population. Et du coup, on se retrouve avec un vide politique qui est occupé par le populisme ou l'extrême droite en France. Il suffirait, et j'en finirai là, il suffirait que les politiques démocratiques ou les politiques non populistes prennent en charge ces populations et une préoccupation beaucoup plus forte et travaillent peut-être un peu plus pour qu'on n'ait pas ce genre de mouvement. Et Trump a rempli un vide évident provoqué par le Parti républicain et Clinton.
Oui, les États-Unis sont-ils prêts pour la lutte post-classe moyenne ? C'était le titre du New York Times Magazine récemment. Clairement, là, il y a une faillite du politique.
Oui, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Reste à savoir si finalement Trump est juste un prestidigitateur ou si qu'on appelle le populisme n'est pas finalement tout simplement le retour de la politique là où les autres l'avaient abandonné.
Donc c'est d'abord l'échec des élites politiques.
L'échec des élites politiques et donc quelque chose de nouveau est en train de se construire. Pour l'instant, ça peut surprendre. On ne sait pas très bien si ça va fonctionner ou pas, mais on peut peut-être finalement leur laisser une chance. Ça n'a pas l'air de si mal se passer en Grande-Bretagne avec Theresa May. On nous avait prédit l'apocalypse. Pour l'instant, un taux de chômage historiquement bas. Alors, elle n'y est peut-être pas pour grand-chose, mais ce n'est pas non plus un tremblement de terre et la Troisième Guerre mondiale. Je crois que la Grande-Bretagne reste la Grande-Bretagne.
Stéphane Vanich.
Theresa May ne fait pas partie des populistes du tout. On a une comparaison qui est le Brexit et une réaction entre guillemets populiste.
Comparons à la Hongrie, par exemple, avec le Premier ministre Viktor Orban.
Il y avait une demande et elle a répondu à cette demande.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que soit l'Europe protège les peuples, soit ça va exploser tôt ou tard. Ça, c'est évident. C'est-à-dire qu'il faut que l'Union européenne, si elle veut perdurer et si elle veut continuer de construire ce qu'elle a fait, c'est avec la protection des peuples. C'est-à-dire je pense que s'il y a la mort de quelque chose aujourd'hui, c'est la mort du libéralisme globalisé complet. C'est-à-dire c'est la non-régulation du libéralisme provoque ce genre de situation. Alors, on l'a déjà vu des années 30, hein, avec la montée des tensions en Europe, sans vouloir comparer du tout Trump avec la montée des tensions, du tout. Hein. Mais si vous voulez, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que la non-régulation économique, la non-régulation de la mondialisation et de l'ouverture des frontières fait que le tissu social et économique s'explose en direct dans chacun des pays et la réaction du coup vient de la protection. L'Union européenne pourrait jouer, parce qu'on est à la taille d'un continent, pourrait jouer ce rôle de protection. Et là, au contraire, ils sont dans une espèce de libre ouverture économique que même les États-Unis n'ont jamais eu.
Mais au-delà du fond, on a l'impression qu'il y a d'abord une relation de confiance qui est cassée entre le politique et l'électeur. Comment renouer ce lien-là ?
Stéphane Vanich. En parlant des vraies choses. C'est-à-dire en parlant vrai.
Donc effectivement, ce que disent les populistes entre guillemets est vrai, les élites se sont détournées du peuple.
Les élites ne se rendent plus compte de la réalité du peuple. Ce qui est un peu différent, c'est-à-dire que on se retrouve
d'abord la mission première du politique,
oui, mais en même temps, sans vouloir faire alors là du tout de populisme, mais quand vous avez une caste qui prend le pouvoir politique avec l'ENA, etc. en France, et ça existe ailleurs avec Havard, etc. On a des phénomènes de ce type-là un peu partout. On se retrouve avec des gens très monolithiques, des mêmes formations, de la même façon de penser, et du coup le débat
un populiste qui vous ignorait finalement. Partage exactement le même diagnostic.
Donc Alexandre Devecchio.
Oui, on partage le même diagnostic. Je pense que les solutions de Trump ou de Marine Le Pen peuvent peut-être être tenter. Après, ce qui peut surprendre, c'est la forme, en particulier d'ailleurs chez Trump. Et là aussi, je pense que ça a été important. Finalement, beaucoup lui ont reproché ses provocations, mais c'était sans doute une manière de marquer la rupture avec cette élite, avec sa manière de s'exprimer. Je crois qu'il y a aussi un rejet, au-delà de la question de la protection, qui est très importante, on est absolument d'accord là-dessus, du politiquement correct. Vous parliez de parler vrai.
Viktor Orban, premier ministre hongrois, a dit que c'était la victoire du politiquement correct, après la victoire de Trump.
Du politiquement incorrect, en quelque sorte.
Oui, mais lui a salué le nouveau politiquement correct pour lui.
Je veux dire, il faut faire attention à tout ça, parce que quand vous regardez les élections, bon, c'est pas même des électorales, hein, je veux pas tout confondre, mais c'est pas un raz-de-marée pour Trump. Hein, le continent américain, les États-Unis ne s'est pas donné à Trump. Il est minoritaire en voix, mais en même temps, il faut faire attention parce que si on avait le même système français, je pense que Trump aurait fait le paquet en Californie, à New York, s'il l'a pas fait parce qu'il savait qu'il avait perdu d'avance avec les grands électeurs. Mais je pense qu'il aurait gagné même dans les systèmes françaises, mais il aurait gagné avec 51%. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que les peuples d'Europe et le peuple américain ne se donnent pas dans le populisme et dans le simplisme à toute épreuve. C'est une partie de cette population qui fait ça parce qu'elle est délaissée. Donc le rôle du politique, c'est de prendre en charge ces populations.
Vous citiez la France, vous qui avez travaillé sur justement le cas de Marine Le Pen. Vous avez évoqué Nicolas Sarkozy, que vous rapprochiez de Donald Trump, mais effectivement, ce qui a sauté aux yeux des observateurs après la victoire de Donald Trump, c'est de savoir est-ce que cette victoire est finalement la première preuve que, eh bien, en France, Marine Le Pen peut être élue l'année prochaine.
Je ne pense pas qu'elle puisse être élue l'année prochaine. Par contre, la fois d'après, je pense qu'elle peut l'être très sérieusement.
Ça veut dire que donc le populisme a de l'avenir,
oui,
au-delà des 3, 4, 5 prochaines
années. Si le camp démocratique, on va dire, le camp non populiste. C'est le camp démocratique, entre guillemets. Parce qu'en France, c'est ça dont il s'agit, en fait.
Attention quand même, parce que la démocratie, il a été élu par... Enfin, la démocratie, c'est le vote du peuple.
Non, la démocratie, c'est pas que le vote du peuple. Non, Hitler, alors, est démocrate, d'après vous. Alors, c'est ça que ça veut dire. Donc, non, il a eu le vote du peuple. Si, non, c'est pas attention. La démocratie, c'est... La démocratie, c'est...
Non,
je vous parle pas du tout d'un Trump, je vous parle de Marine Le Pen.
Voilà.
La démocratie...
Ni Marine Le Pen.
Je vous en savais rien du tout. La démocratie, c'est un état de droit aussi. La démocratie, c'est la liberté de penser. C'est les médias libres. Faut faire attention. Marine Le Pen, moi, je la rapprocherai beaucoup plus de Poutine, et je rapprocherai plus Trump de Sarkozy, mais Marine Le Pen, je la rapproche beaucoup plus de Poutine, avec tout ce que ça veut dire derrière, y compris avec la liberté de la presse. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le vide du discours politique du camp démocratique, et là, je parle de la France et pas des États-Unis, est tel que, en effet, Marine Le Pen s'engouffre dans ce vide parce qu'elle apporte une explication relativement simpliste, mais pas tant que ça en fait quand on regarde Trump, ça, tout est relatif, mais elle a une solution, c'est le nationalisme à tous les étages, entre guillemets, mais elle apporte une solution, elle apporte une explication, elle apporte une solution, et c'est ça la politique, c'est de la pédagogie et apporter des réponses. Le camp démocratique aujourd'hui n'arrive pas à analyser ce qui se passe dans la nation et n'apporte pas vraiment de solution. Et donc, du coup, ce déséquilibre fait que Marine Le Pen, petit à petit, en effet, engrange des voix. En revanche, qu'est-ce qui se passe pour elle? C'est son problème, c'est le Front National. C'est-à-dire que comme ce n'est pas un parti démocratique, les Français n'ont pas envie de vendre la démocratie française. Et donc, du coup, il y a ce plafond qui fait que je ne pense pas que cette fois-ci, elle va gagner. Par contre, si le camp démocratique ne continue pas, ça peut être très grave.
Alexandre Devecchio, à l'échelle mondiale, comme le sous-entend Stéphane Vanisch, le populisme est solidement ancré, il est parti pour durer pendant mal d'années.
Moi, j'avoue que je récuse de plus en plus ce terme de populisme.
Oui.
Il est clair, en tout cas, qu'il y a une rupture avec le modèle néolibéral globalisé qui est général dans le monde occidental. Donc je crois qu'effectivement on va voir ce type de victoire de plus en plus souvent avec une société qui est de plus en plus fracturée. Moi je vois bien entre les grandes métropoles effectivement qui sont à l'aise dans la mondialisation et le reste du pays qui en pâtit. Toute la question est de savoir si est-ce que ce populisme est pas aujourd'hui le meilleur moyen soit de réveiller les élites politiques, soit finalement une véritable solution? Parce que bon, vous dites Marine Le Pen nationaliste, ça reste à prouver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chez les gens, il y a une réelle aspiration au retour de la nation. Ça ne veut pas dire une nation barricadée derrière des barbelés, mais une nation qui protège avec l'autorité de l'État, peut-être avec une monnaie, avec des frontières, etc., etc. Donc, c'est peut-être le retour, le monde de demain, c'est peut-être le retour au monde d'avant.
Et on a bien compris que les clés sont sans doute dans les mains, entre les mains des politiques qui ont failli donc ces dernières années, d'où cette situation dans le monde. Merci beaucoup Alexandre Devecchio.
Merci.
Écrivain, journaliste pour le Figaro, en charge du Figaro Vox, auteur de l'ouvrage Les Nouveaux Enfants du Siècle. Merci également à vous, Stéphane Vaniche, professeur associé de communication politique à l'Université Paris-Est, Créteil.